Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre santé un trésor. Monsieur Georges Simenon avait, comme nous l'avons vu lors d'une précédente émission, une relation toute particulière avec les médecins et la médecine. Il a rénové et actualisé le genre du roman policier par son sens de l'analyse, non pas ce que l'on nommerait trop facilement aujourd'hui une approche psychologique. Il existe, comme cela, des mots que l'on pourrait dire passe-partout, sans que les personnes qui les emploient ne sachent vraiment de quoi elles parlent. Georges Simenon a adapté à son temps le roman policier par la restitution à la fois réaliste, naturaliste, pragmatique et poétique de l'atmosphère d'un lieu, d'une localité, d'une ville ou de milieu social ou culturel. Il a été copié en cela par une série télévisée qui a eu en France un succès non négligeable dans les années 60 et qui s'appelait « Les cinq dernières minutes ». C'était une série télévisée française d'enquête policière créée par Claude Lourcé en 149 épisodes répartis sur trois générations. Elle mettait en vedette les personnages du commissaire Bourrel, interprété par Raymond Gillermin, dit Raymond Souplex, un acteur dialoguiste, scénariste et chansonnier français né le 1er juin 1901 et mort le 22 novembre 1972. Et son adjoint, l'inspecteur Dupuis, joué par Jean-Charles Barniot, dit Jean Doran. La première série comprend 56 épisodes, dont 51 noirs et blancs, diffusés du 1er janvier 1958 au 7 novembre 1973 sur la première chaîne de l'ORTF. Dans chaque épisode, le scénario de l'émission fait pénétrer et connaître un milieu professionnel ou social nouveau, le plus souvent étranger à Bourrel, et en cela, la série est une vraie série documentaire sur les ambiances de la vie sociétale de l'époque. Georges Simenon, lui, est le créateur du personnage fictif du commissaire Jules Maigret, protagoniste des et héros de 75 romans policiers et de 28 nouvelles publiées entre 1931 et 1972, qui lui ont valu une renommée internationale. Nous avons déjà abordé dans une précédente émission le fait que le commissaire Jules Maigret réalisait ses enquêtes à la manière d'un diagnostic médical. En effet, Georges Simenon avait une relation toute particulière avec les médecins et la médecine. Auteur prolifique, Georges Simenon est marqué très tôt par la maladie, la souffrance et la mort, ce qui le fait se rapprocher et créer des personnages médicaux que l'on rencontre dans son œuvre. Le commissaire Jules Maigret est essentiel, nécessaire à Simenon, car il est Simenon, et Georges Simenon est E.S.T. Maigret. Toute une série de signes et d'indices acquiescent le fait que Simenon, hanté par la maladie et la mort, s'identifie, s'écrit et se raconte avec son personnage, Jules Maigret. En écrivant Maigret, Simenon s'écrit et se raconte lui-même. Comme énormément de personnes qui ont besoin, vers la fin de leur vie, de se dire en espérant une certaine postérité, tout au plus de laisser une trace de leur existence, un moyen de survivre, de ne pas mourir vraiment. Georges Simenon est le premier fils de Désiré Simenon, qui ne l'aimait jamais et préférait son frère Christian, qui naîtra 3 ans après lui et qui mourut très tôt à 41 ans. L'histoire de la famille Simenon est toujours dissimulée. Les secrets s'entassent sur la réalité familiale. Le frère de Georges, Christian Simenon, né le 21 septembre 1906, a été impliqué durant la Seconde Guerre mondiale dans un événement tragique et sanglant, la tuerie de Courcelles. La tuerie de Courcelles, ou la tuerie de Rognac, est l'exécution sommaire par des éléments sexistes après plusieurs règlements de compte de 19 civils, le 18 août 1944, soit le lendemain de l'assassinat d'Oswald Englebin et de sa famille à Courcelles, en Belgique, probablement par la résistance. Au total, 27 hommes et femmes sont assassinés les 17 et 18 août 1944. Christian Simenon se trouve impliqué dans la collaboration politique. Il est le chef de section 3 du service 2 du département politique de l'état-major du Rex. Christian Simenon a pris une part active à la tuerie de Courcelles en 1944. La partie rexiste belge, le Front populaire de Rex, appelé encore Rex, était un mouvement politique d'extrême droite nationaliste et anti-bolchevique belge actif entre les années 1930 et 1945. Christian Simenon abandonne alors sa femme et son fils, dénommé Georges, et fuit en France. Il rencontre à Paris Georges Simenon, son frère, qui lui donne à choisir entre assumer ses actes devant la justice belge, fuir en Espagne ou au Portugal, ou s'enrôler dans la Légion étrangère. Il s'engage dans cette dernière en juillet 1945 sous le nom de Christian Renaud. Le 3 août 1946, Christian Simenon, absent, est condamné à mort à l'issue d'un procès qui a débuté le 21 mai par le Conseil de guerre de Charleroi. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1947, Christian Simenon est blessé en Indochine et meurt quelques heures plus tard. Il est enterré là-bas. Le deuil d'un frère ou d'une sœur que l'on aimait pas vraiment et qui a généré des tourments est une épouvante horreur à vivre et aggrave la perte d'un membre d'une fratrie qui est déjà atroce et abominable. Cette perte fait disparaître l'intimité de notre enfance, ce paradis perdu où l'on adhère à la beauté et à l'éclat de la vie et où l'on n'imagine pas qu'elle est peut-être remplie de maléfices. Nous avons déjà vu que quand il meurt, sa mère dit à Georges Simenon, survivant, « C'est dommage que ce soit Christian qui soit mort. » Comme vous le savez déjà, elle s'éteint à 91 ans sans avoir jamais ouvert un seul livre de Georges, ce qui vraiment le meurtrira, fermement. Est-elle jalouse de Georges? Est-elle détentrice de mystérieux secrets concernant Georges qui la ronge et la liquéfie de l'intérieur? Impossible à dire. C'est là encore un des mystères qui entourent la vie de Georges Simenon. Une affliction d'une intimité familiale pathologique pourrait expliquer une partie de son génie d'écrivain et de l'impact qu'il aura sur le charisme de son héros qui irradiera chez ses lecteurs. Tout écrivain est en fait un tourment qui le taraude. L'écriture est une béquille et une médication, ou du moins le croit-il, car en fait l'écriture peut le plonger dans son obsession et au contraire peut l'aggraver et agrandir son tour. Un jour de l'année 1916, alors que Georges n'a que 13 ans, le docteur Fischer lui annonce que son père est mourant et cela le plonge encore enfant dans l'intimité d'un pré-deuil qui va le perforer et le transpercer, le transformer et le déstabiliser tout au long de sa vie. L'horreur de pouvoir perdre son père, comme tout un chacun peut la vivre, va changer profondément ses rapports avec la vie et sa finitude irrémédiable, la mort. Depuis ce temps, Georges sera obsédé par elle. Elle va le suivre comme dans un analyse perpétuel et continue une intonation, une tonalité de chasse à mort que l'on sonne pour annoncer que la bête se rend et va mourir. La mort et son atroce présence sont là étalées chez Georges Simenon et ce n'est que pas par hasard qu'il excelle dans les romans policiers, ce genre littéraire centré sur une ou des morts violentes et atroces qui révulsent et dont le héros, quel qu'il soit, policier ou particulier, essaie de découvrir et de traiter la cause, l'étiologie, pour nous soigner après que l'auteur ait créé en nous l'angoisse de la peur que cette ou ces morts ont générée en nous. Le roman policier est en fait une pathologie de deuil qui est créée pour nous et que nous vivons. Nous nous plongeons artificiellement dans un deuil, celui de là ou des victimes du roman et son déroulement, et à la recherche de leurs causes qui doivent être attribuées à l'assassin ou aux assassins. Le processus nous éloigne des morts par maladie ou accident et nous entraîne dans une démarche de soins et de thérapie du deuil par la démarche d'enquête qui se veut exaltante et le plus souvent rationnelle dans la quasi-totalité des romans de ce genre. Le roman policier structure notre démarche de soins et de réadaptation de notre quotidien et nous fait quitter et oublier. Après 4 longues années de pré-deuil, un abîme diabolique qui va marquer à jamais Simenon, il vivra dorénavant avec la mort à ses côtés. Malgré son et ses troubles en rapport avec la maladie et la mort, Georges Simenon va avoir 4 enfants. Ses 3 derniers enfants, Jean, Marie-Jo et Pierre, seront issus de son mariage avec Denise Ouimet. Georges n'a qu'une fille et une fille pour un père, comme un père pour une fille reste un mystère impénétrable et subjuguant. On retrouve chez Maigret des signes de Simenon. Ils fument tous deux la pipe, par exemple. La relation de Jules Maigret avec l'alcool n'est pas surprenante si l'on en croit la biographie de son auteur Georges Simenon. Maigret est alcoolo-tabagique et ne s'en cache pas. Bruno Kremer, un des interprètes de la série, les démontre à merveille. Georges a la boisson solide dans sa vie. Jeune reporter, il fréquente la CAQ, un groupe de poètes, rapins et autres jeunes artistes. Ses compagnons de l'Apocalypse sont réunis pour les beuveries qu'il nomme lui-même les séances orgiaco-mystiques, dans un grenier situé derrière l'église Saint-Paulien, impasse La Houppe à Liège. Il y a dans cette atmosphère enfumée des effluves d'alcool. Pourtant, ce n'est pas l'exemple reçu de sa famille. Son père est un homme tranquille qui aime rester chez lui avec son journal et sa pipe. Georges conservera la pipe, mais dérivera vers l'alcool. À quoi bon se priver puisqu'on doit y passer. Denise, sa deuxième épouse, présente des troubles psychologiques, mais aussi des problèmes d'alcoolisme. Le couple est un couple dysomaniaque. Le romancier devait être stimulé par la boisson comme excitant lorsqu'il écrit. Elle vit séparée de lui depuis plusieurs années en 1978. Elle rédige un livre qui est un témoignage déballage sur la vie de Simenon au temps de leur passion au nom évocateur, un oiseau pour le chat, sous la forme d'un recueil de souvenirs mis en forme par quelques journalistes. Sur le plateau de la deuxième chaîne française, le journaliste Philippe Bouvard invite Denise Simenon pour en parler. Nous sommes en 1978. Le livre retrace les coulisses d'un amour fou, le récit d'une femme qui se retrouve dans les griffes d'un génie imprévisible et cruel. Denise Simenon explique les raisons de son livre. Me venger de quoi? Pourquoi? D'avoir été heureuse? Passionnément amoureuse? D'avoir eu une vie fabuleuse? Vous savez, la souffrance, elle fait partie de tout être. Georges est violent et brutal, d'après elle. Il est atrocement jaloux. Denise évoque les méthodes de travail de l'écrivain, son penchant pour le whisky, et elle accrédite la légende de l'homme à femme, dont tout le monde sait qu'il n'en est rien. Elle et lui font partie d'un couple de génies d'artistes, de génies artistes. Elle est en fait sa muse, dont il ne peut se passer, et son souffre-douleur. Beaucoup de couples où se situe un artiste leur ressemblent, dans lesquels tout est permis, ou plutôt où l'on croit que tout est permis. Étrange ménage que celui des Simenon, étonnant et intéressant, manège. Denise est une maîtresse à domicile. Elle vit avec Teggy, l'épouse officielle de Simenon. On y découvre Simenon dans son livre dépassé et muselé dans un égoïsme féroce, mais qui curieusement refuse le divorce. Les derniers chapitres de son ouvrage engendrent un bouleversement et un malaise. Denise y raconte un Georges soumis à une sorte de vindicte et à la suprématie d'un psychiatre perfide dont la tutelle s'accroît et le rend rempli. Le praticien est-il jaloux du génial écrivain? Les médecins se veulent souvent supérieurs, on dirait aujourd'hui intrusifs. Ils veulent trop souvent mettre leur emprise et être dominateurs. Nous le voyons aussi actuellement très souvent, trop souvent maintenant, que les médecins ont abandonné la psychiatrie avec de pseudo-psychothérapeutes et psychologues, alors que leur déontologie leur demande de se contrôler et de pratiquer uniquement pour le bien et les bénéfices des patients. Il ne faut pas oublier que les médecins sont des femmes et des hommes, ils sont humains et conservent les faiblesses et les démons de l'humain. Simenon déclarera le livre de Denise seulement bon pour les psychiatres, mais le livre révèle un Simenon intime qu'il veut dissimuler. Un mois après la sortie de l'ouvrage, le couple séparé vit un drame. Leur fille Marie-Jo se tue d'une balle en plein cœur à l'âge de 25 ans, victime, d'après ce que l'on peut savoir, de l'entre-dévoration de ses parents. C'est le drame absolu, et Georges rejoint la souffrance irrémédiable et tyrannique de son personnage Jules Maigret qui lui perd sa fille sous la plume de Georges Simenon, qui enfante par son écriture un drame dans l'histoire du couple Maigret. Les Maigret perdent une petite fille, soit à naissance, soit peu de temps après. On n'en apprend pas beaucoup plus, d'après les quelques allusions dans le corpus des écrits sur Maigret. Le couple n'en parle jamais. Ce sont illégitimement des silences, des retenues de sentiments. Maigret est pétri et brassé par la nostalgie de la paternité. Aucun enfant ne laisserait à Madame Maigret une affection différente de celle qu'elle éprouve pour son mari, qu'elle gâte et materne tout à son aise. Maigret est autorisé par Simenon à avoir une relation tutélaire avec les membres de sa brigade. Il peut les nommer ses enfants, mes enfants. Janvier ou La Pointe, Lucas, le plus ancien, Lourtier et Torrance sont des substituts filiaux. Ils sont les fils qu'il n'a pas pu avoir et uniquement des fils du commissaire. Je vous propose une intermède musicale aujourd'hui avec la musique du générique de la série Maigret, interprétée par Bruno Kremer, Maigret et les plaisirs de la nuit de Laurent Petit-Girard par l'Orchestre symphonique français. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous évoquons aujourd'hui Georges Simenon et le commissaire Maigret. Avec un minimum d'effets et un maximum de faits, l'auteur belge vous appâte dès les premières lignes et vous tient en haleine jusqu'au bout de son livre, Enfanté en 10 jours, comme tous les autres. Nous dit Philippe Chevillier, qui supervise la rubrique culture du quotidien Les Échos Week-end. Jacques Dubois, universitaire belge, docteur en philosophie et lettres, et de l'Université de Liège, professeur émérite de cette même université, a enseigné les auteurs français du XIXe et XXe siècle, ainsi que la sociologie de la littérature. Il nous précise « Tous les romans de Simenon ont un caractère dépressif. Il raconte la même histoire, un homme, rarement une femme, petit bourgeois de préférence, englué dans une vie routinière, un beau jour, ne supporte plus son carcan, sur un coup de tête ou à la suite d'un incident, il part et c'est la crise. Alors que les personnages des victimes et de leurs criminels reprennent les angoisses, les inquiétudes, les craintes, les peurs et certains des traits morbides à la limite du pathologique de la personnalité de Simenon qui se dévoile pour mieux se cerner et essayer de se soigner, Jules Maigret en est le thérapeute, et sa démarche est le plus souvent basée sur la compréhension et le pardon. Si Maigret découvre le coupable et le mobile du crime ou du meurtre sur lequel il enquête, il essaie toujours de nous induire sur les causes profondes, les étiologies qui ont amené le coupable à réaliser son action directement liée à un ou des troubles qui le perturbent. Maigret, en plus de faire le diagnostic du pourquoi et du pour qui du crime ou du meurtre, nous explique la démarche malfaisante venant du tréfonds de l'assassin qui l'a amené à réaliser son œuvre. En plus de cela, la magistrale personnalité de Maigret, protectrice et tutrice, providentielle et paternaliste, reprennent celle du commandeur de l'opéra de Mozart, Don Giovanni, se place au-dessus et pardonne, absout, et en cela nous soulage. Car vous l'avez compris, Maigret est paternaliste au bon sens du terme. Il protège, élève et fait s'épanouir, alors que Simenon crée des personnages qui produisent par leur malaise et leur perturbation l'ambiance délétère du roman et par là nous trouble. Maigret, lui, nous rassure et nous soigne en nous expliquant le pourquoi et le comment des propres process qui ont fait aboutir aux catastrophes. Mais surtout, Maigret est un père aimant. Pardonne. Il pardonne les protagonistes malfaisants des romans qu'il habite et surtout, il nous pardonne de nous être identifiés au personnage, à celui qui subit ou celui qui meurtrit. Simenon nous amène sublimement à nous identifier à ce personnage et nous en guérit avec l'affection de Maigret. Maigret mène bien ses enquêtes à la manière d'un diagnostic comme je l'ai avancé, mais Maigret est le médecin que Simenon n'a pas pu être, et comme tout médecin, il soigne et soulage. C'est sa vocation. Maigret, le personnage de Maigret, et sa complexité, comme son entourage, sont l'antinomie de la personnalité de Georges Simenon. En écrivant les enquêtes du commissaire Maigret, Simenon se soigne et expose ses traits, les traits de ses névroses et de ses délires, de ses perturbations à travers ses personnages et l'atmosphère qu'il engendre. Maigret est le médecin paternel que Simenon s'est créé pour se soigner et se faire pardonner. Maigret est donc bien le Simenon que Georges aurait voulu être et le médecin qui n'a pas pu devenir. Maigret est l'épousé de Simenon, car Simenon a besoin d'un double inversé pour se stabiliser, pour stabiliser ses désordres et ses singularités. À part quelques similitudes qui font se tutoyer les deux personnalités, comme la pipe et la bière, Maigret est l'homme qu'aurait aimé être Simenon, un homme compréhensif, ne jugeant pas, paternel, présent et pardonnant. Car Simenon vit ses troubles comme des péchés qui le maudissent, et il a besoin d'être rattaché, de subir un processus rédemptionnel pour qu'il soit absous de ses perversions et corruptions. Cette culpabilité qui engendre ses faiblesses lui provient-elle de la perte lorsqu'il était jeune de son père qui n'a pas eu assez le temps pour le rassurer et l'affermir dans sa future vie d'homme? Ceci fait partie des profondeurs de l'âme de Georges que personne ne pourra connaître. Le fait que Maigret est un père pour Simenon est un père en plus sous la plume créatrice de son auteur qui va prophétiser le drame absolu que va vivre Georges Simenon. Simenon fait de Maigret un père en deuil, un père qui ne peut plus être père, orphelin de son enfant, de sa petite fille, et la malédiction fera de l'auteur à l'image de son personnage un père meurtri, un père qui connaîtra l'enfer en perdant d'une manière horrible son unique fille qui se suicide. Marie-Jo s'est-elle inspirée de la création de son père ou Simenon avait-il prophétisé son futur deuil? L'intrigue est trop complexe et malsaine à disséquer pour déduire une réponse. Il faut laisser à chacun interpréter la tragédie, fin de l'existence de Georges Simenon, en espérant et en souhaitant que Jules Maigret l'a accompagné, soyez pardonné jusqu'au bout, afin de soulager ses tourments pour que Georges Simenon puisse avoir pu rejoindre sa fille et la retrouver afin que pour leur éternité, il et elle puissent vivre une nouvelle vie d'amour et d'harmonie où les contingences de l'humain soient dépassées. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé, aujourd'hui les mémoires de Georges Simenon, Un oiseau, le chat, Denis Simenon, Jean-Claude Siméon, en 1978. Je me permets de remercier Louis à la technique et Chanel au site internet et au visuel. Je me permets aussi de renouveler mon annonce pour l'adhésion à Radio Alliance, plus à laquelle vous pouvez souscrire. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.